Bonjour et bienvenue sur le podcast de Newfound. Nous lançons notre toute première émission dédiée aux technologies du cerveau. Newfound identifie le Brain Capital comme un terrain d'innovation particulièrement fertile pour les prochaines années et veut jeter un pont entre le financement de la recherche et celui de l'innovation. Cet épisode a été enregistré le 25 janvier dernier dans le cadre d'une table ronde à Paris. Newfound a accueilli les professeurs Joël Doré, Sophie Laillet et Marion Leboyer pour échanger sur le lien entre le microbiome et la santé du cerveau. La discussion était passionnante et chez Newfound, nous nous sommes dit « Notre son n'est pas parfait, mais ça vaut la peine de partager les meilleurs moments de cet échange avec vous tous. » Bonne écoute!
En fait, on est microbiens, on est chacun en interaction permanente avec 500 milliards de microbes dans nos intestins notamment, enfin, c'est là où on a la plus grande biomasse. Et cette interaction, elle agit sur notamment le paramètre immunitaire, donc l'inflammation. Et quand les choses se dérèglent au niveau du microbiote, ça va jouer sur la perméabilité intestinale, ça va jouer sur notre statut inflammatoire. Et souvent, quand les choses vont pas bien au niveau intestinal, notamment quand il y a de l'inflammation, ça s'accompagne d'une diffusion dans l'organisme de signaux inflammatoires. Au niveau du cerveau, ça ouvre la barrière qu'on appelle hématoencéphalique, donc les séparations entre les cellules des vaisseaux sanguins, et donc ça génère immédiatement une micro-inflammation du cerveau qui va pouvoir altérer la signalisation entre les neurones, et notamment quand c'est une période critique de neurodéveloppement, ça va pouvoir entraîner des soucis en fait, qui vont être potentiellement durables. Même si les choses se rétablissent au niveau intestinal, il y a des moments critiques dans le neurodéveloppement qui sont vraiment cruciaux par rapport à ça. Donc ça, c'est la vision où le microbiote va intervenir, et ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre comment la nutrition en jouant sur le microbiote peut jouer sur la santé mentale et voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir. Et quand on est dans des situations où un système complexe, quel qu'il soit en réalité, se retrouver dans une situation de cercle vicieux, à ce moment-là, on n'a plus de continuum entre les états. Pour nous, ça va être l'état de santé et l'état de pré-maladie ou de maladie. Tout continuum, ça veut dire qu'on bascule dans une situation où un cercle vicieux s'installe et entretient la situation altérée. Et donc, le retour à l'état initial va exiger finalement la prise en compte des différents leviers du cercle vicieux, parce que si on agit seulement sur le microbiote ou seulement sur l'inflammation, comme le fait la plupart du temps la médecine dans les contextes de maladies inflammatoires, bien sûr, on ne se donne pas toutes les chances de pouvoir casser le cercle vicieux et remettre les choses de côté. Une naissance sur 50 aujourd'hui aux États-Unis est vouée à avoir de l'autisme, en fait, soit au moment de la naissance, soit dans la vie, à un moment donné. On est sur une sur 150, je crois, en France, aujourd'hui, en Europe, dans plusieurs pays. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Et le parcours classique pour nous, c'est on décrit dans la maladie l'altération du microbiote. On a longtemps parlé de dysbiose. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus que juste le microbiote. Voilà, on commence par le secteur, puis ensuite on se dit, tiens, mais c'est observationnel, c'est une association ou une corrélation, est-ce qu'il y a de la causalité? Et donc, on utilise le transfert de microbiote pour aller vers la démonstration de causalité. Et ça a été fait dans l'autisme et dans la dépression. On a transféré le microbiote de patients vers des animaux qu'on élève sans germe, par exemple, et on montre qu'on reproduit une symbiose altérée et on reproduit les symptômes de la maladie jusqu'à des dosages de neuromédiateurs dans le cerveau, en fait, qui sont altérés quand on fait ce transfert de microbiote. L'étape d'après, c'est le transfert de microbiote de l'humain vers l'humain, donc à des fins thérapeutiques, du sujet sain vers le patient, pour voir si la reconstruction, le reset de la symbiose permet d'éliminer ou au moins de diminuer les symptômes de la maladie. Et ça a été fait dans la dépression et dans l'autisme. Là, on a ouvert la possibilité d'innovation en termes d'utilisation de leviers de la nutrition pour jouer sur la relation humain-microbe dans les contextes de trop
un aspect important, c'est aussi les altérations métaboliques. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les situations d'altération métabolique sont associées à des situations d'inflammation métabolique. Parce que finalement, on a deux types d'inflammation. L'inflammation qui doit être développée en réponse à une agression. Donc ça, c'est un système de défense, mais on l'a dit. Par contre, si cette inflammation reste très élevée, c'est le cas lors du Covid, c'est que quand les inflammations métaboliques qui sont liées à d'autres altérations du stress, ou cette obésité, ce diabète, cette inflammation, donc le bas bruit, va s'accompagner dans le cerveau de l'activation qu'on appelle la neuroinflammation. Et cette neuroinflammation dans le cerveau va mobiliser des cellules, donc qui sont des cellules très particulières, qui sont résidents dans le cerveau, qui sont des cellules de l'immunité, mais qui sont là depuis toujours, très très tôt dans la vie. Elles vont dans le cerveau, les mains, dès le début du développement cérébral. Et donc, elles vont y résider pour la vie entière. Et le problème, c'est que si ces cellules mal programmées au départ, pour des raisons génétiques, mais aussi pour des raisons qui peuvent être autres, nutritionnelles, par exemple, une exposition à l'hémoglobine, qui vont pouvoir, en fait, déprogrammer ces cellules, les empêcher, finalement, de faire quoi tout leur travail, qui est leur travail de protection, et donc, on devient cette inflammation chronique, et donc, qui va altérer le fonctionnement neuronal, au travers, par exemple, de la perturbation de certains neurotransmetteurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au cours du développement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le statut nutritionnel maternel, pendant la gestation et après, pendant la phase lactatoire, va être extrêmement important dans la façon dont certains nutriments vont être donnés au bébé. Évidemment, il y a le transfert aussi de flore intestinale, c'est-à-dire que l'enfant acquis une flore qui est celle de sa mère. Et donc, toute cette, on va dire, cette interaction va être extrêmement importante dans le développement cérébral, dans la façon dont ces cellules de l'immunité cérébrale vont se mettre en place et vont justement contribuer à un développement économique. Et des données très récentes ont montré, par exemple, que les microbiotes, c'est un microbiote déséquilibré, donc c'est beaucoup plus complexe que ça comme visuel, mais effectivement, va donner naissance à la production de molécules directement par ce microbiote qui vont être ensuite transformées au niveau du foie et peut rentrer dans le cerveau et agir directement sur ces cellules cérébrales et donc perturber complètement ce fonctionnement. Et aujourd'hui, il y a des thérapeutiques, il y a des stratégies qui sont extrêmement novatrices qui vont targeter soit, ou cibler soit le microbiote lui-même, soit ces molécules qui sont émises par ce microbiote qui est dysfonctionnel et qui vont pouvoir rentrer dans le sang. Donc là, on a aussi une autre courant, je pense, stratégique pour faire des approches multiples qui vont être nutritionnelles, qui vont être au niveau du microbiote lui-même et au niveau des molécules soluble du microbiote qui peuvent être complètement dans le cerveau. Et notamment pour essayer de rendre plus facile les neurotoxiques.
Et en fait, quand on mange, on va en partie aussi nourrir nos microbes et ce faisant, en fait, faire de la prévention, de la symbiose, de notre relation avec nos microbes. Dans des comparaisons qu'on a pu faire entre les populations qui sont restées jusqu'à aujourd'hui à l'écart de la modernité, par rapport à la population occidentale, on se rend compte qu'on a une perte de richesse et de diversité du microbiote intestinal. Ça va jusqu'à 50% de la diversité d'espèces dans nos microbiotes intestinaux, dans les populations occidentales aujourd'hui, notamment les populations qui sont très versées sur le Western diet, comme on dit, donc très très ultra transformé, par exemple. Et ça veut dire beaucoup. Nous, on se rend compte que le paramètre richesse et diversité du microbiote intestinal est un paramètre qui est en permanence associé avec les meilleures conditions en termes de santé et toujours un paramètre décliné ou dégradé dans les maladies chroniques en général. Donc on a vraiment envie de préserver ça et ça on peut le préserver en grande partie à travers l'alimentation. Et c'est notamment la composante fibre de l'alimentation. Donc le microbiote, il ne voit pas arriver les choux, les carottes, les noisettes ou les bananes. En fait, il voit arriver de la cellulose, des pectines, des élagues. La richesse et la diversité des fibres, c'est ça qui est la force, en fait. Chaque particulière de fibre est une clé pour une niche écologique qui est occupée par un microbe spécialiste, souvent, ou quelques-uns, qui, à travers l'évolution, a appris cette compétence et qui vont la défendre. En fait, il y a un territoire qu'ils occupent. Ils nourrissent tout le reste, en fait, en dégradant ces complexes micromoléculaires. Et donc, c'est important de vraiment mettre en avant cet aspect-là, on nourrit nos microbes, et notamment à travers la richesse et la diversité des composantes végétales de l'alimentation. En plus, la couleur, c'est les polyphénols. Donc, par exemple, j'ai mentionné la curcumine, ça fait partie de la famille polyphénol. Et bah, ça, c'est aussi anti-inflammatoire, antioxydant, en fait. Hein. Souvent remanié un petit peu par certains microbes et quelquefois potentialisé dans les effets bénéfiques potentiels dans cette bioconversion. Donc, voilà, tout ça va jouer beaucoup. Alors, il y a d'autres aspects de l'alimentation, hein, les acides gras bien saturés, les oméga 3, par exemple, vont jouer beaucoup sur l'intégrité de la paroi intestinale. Et ça, c'est aussi une façon de préserver notre symbiose. Certaines vitamines, en fait, vont avoir des effets anti-inflammatoires, des minéraux, vont aussi avoir des effets anti-inflammatoires, antioxydants, et donc vont jouer sur la réalité de l'intestin, et ce faisant, la préservation de notre santé. Donc tout ça, oui, à travers quelques ajustements de nos habitudes alimentaires, en fait, on voit bien qu'on peut agir. Et il y a quelques travaux, notamment des collègues, par exemple, australiens, ont parlé à Marion, qui montrent que un régime type méditerranéen est vraiment optimal par rapport à ces aspects-là, en fait, va de façon vraiment intéressante jouer sur les paramètres du microbiote ou de l'autre, et donc bien préserver la santé. Donc, si on pousse ça à l'extrême, on a l'intermédiaire qui est, alors je sais plus comment on appelle ça, peut-être Pierre, tu peux m'aider, mais c'est le FMS. Et donc, il y a ça, qui est l'intermédiaire, qui est quelque chose qui va être effectivement designé, développé pour une vision thérapeutique, effectivement aux médicaments. Mais on peut par l'alimentation, effectivement. Il y a une certaine pertinence aujourd'hui, notamment dans notre monde occidental, où on a oublié plein de choses, on a oublié qu'on est microbien depuis longtemps.
Est-ce qu'il y a une relation entre la variété de ce moment, parce que bon, quand on est là, c'est que, et la variété de les bactéries. Ou est-ce que, par exemple, quand vous parliez de kiwis qui sont, dont on a observé les microbiotes, est-ce qu'ils sont, ils sont complètement isolés de la Western diet, on s'aperçoit que même si leur alimentation est plutôt comme chasseur cueilleur, assez basique, le microbiote est très diversifié.
Le microbiote est très diversifié chez eux, parce que dans leur alimentation, il y a des apports de fibres en richesse, en quantité, mais surtout en richesse et diversité, en fait. Nous, on est passé de, probablement, milieu du siècle dernier, 40 à 50 grammes de fibres par jour, par personne. En France, aujourd'hui, autour de 17 grammes, en fait. Le nutritionniste nous dit, non, il faut être à 30 grammes. Ça nous paraît compliqué. Alors, en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, la quantité, c'est quelque chose, mais la diversité, la richesse, c'est vraiment... Donc, moi, j'aime bien pousser l'argument sur, oui, on nous dit 5 portions de fruits et légumes par jour. Imaginons, il faut 25 portions de fruits et légumes différents par semaine. Parce que si on fait cet exercice, on va diversifier notre apport. Et ce que je vois, c'est ce que je disais, ce que je vois arriver des microbes, c'est du lourd, des ianes, des pectines, des aminons résistants. Des choses différentes, faciles à apporter si on fait cet exercice de diversification de nos apports.
Intuitivement, c'est en tout cas la façon dont je pense à la vie. Est-ce que vous avez remarqué cette commission? Et s'il y a des règles, pour moi, le cerveau, finalement, on ne dit pas des choix adaptés pour restabiliser un peu la vie.
Il nous en est loin. C'est une recherche qui est naissante, j'ai envie de dire. Quoi. On se pose la question de savoir si, pour ce qui me concerne en tout cas, est-ce que le microbiote, finalement, ne veut pas définir une partie de nos choix alimentaires? Il y a une certaine logique en termes d'évolution, en fait, à ce que ce soit comme ça, ou au moins en partie. Et par contre, on n'a pas aujourd'hui l'élément scientifique vraiment robuste pour dire oui, fonctionne dans ce sens-là aussi, quoi. Là, c'est intestin-cerveau, ça va aussi conditionner les choix alimentaires.
C'est essentiel d'un peu pour parler, même bien sûr que ce n'est pas forcément bon. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de croissant là alors qu'on aimerait bien avoir un bon
parti de cerveau? Le cerveau, c'est pas un principe de sucre, juste si vous voulez grand nous, le cerveau demande de sucre, il faut plutôt donner du sucre au cerveau. La problématique, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de sucre caché dans notre alimentation, donc on consomme du sucre sans le savoir. Donc l'apport au final en sucre est largement au-dessus de ce que nous avons consommé. Et ce dont le cerveau a besoin, il faut savoir comment on stocke au sucre. On a des stocks quand on a besoin, mais le cerveau ne sait pas faire ça. Le cerveau ne sait pas stocker le sucre. Et effectivement, la question aussi, c'est le type de sucre, et les fructoses, le fructose, en l'occurrence, qui est un sucre caché, qui est présent dans beaucoup de formules en sucre préparé. Aujourd'hui, c'est un sucre dont on ne connaît que peu l'effet, sauf sur le foie, c'est du foie de rein, c'est quand on met du foie de rein. on a la façon dont on va manger. Et après, ça se construit aussi avec les expériences qu'on va avoir, par exemple, de notre société. Parfois, on mange des aliments, on a un truc de gastrique, et après, plus jamais, on va en consommer. Donc, il y a une construction vraiment extrêmement complexe et qui est dépendante de chacun d'entre nous, avec aussi les récepteurs qui sont les récepteurs odorants. Il y a une odeur aussi au niveau de la bouche. Elle peut influencer complètement, justement, par les processus digestifs, par le pré-digestif, la façon dont, justement, on va émettre certaines molécules pour être odorantes et qui peuvent modifier aussi la perception de l'aliment. Et tout ça va contribuer, naturellement, à la construction. Et après, il y a comment est-ce qu'on perçoit les messages. Ça, c'est autre chose dans le monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a entendu de consommer moins de sucre, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et donc, là, on a des processus moins biologiques qui sont mis en place. Mais c'est vrai qu'on a un lien entre les intestins et le cerveau qui est unilatéral. Donc, effectivement, le microbiote, la boucle intestinale, le cerveau, le cerveau, qui ne peut pas influencer la boucle intestinale. Donc, on a un gros talk très important.
Donc, ça nous rend lieu ce qu'on sait de plus en plus. L'éducation pour aller au-delà de la physiologie normale, ils ont l'air de l'équilibre. Est-ce que c'est cause ou conséquence du début à la fois? Je ne sais pas, mais on sait qu'ils ont une variation qui est. Qui est très éloigné du régime méditerranéen dont vous parlez tout à l'heure, qui est très fait d'aliments transformés. Et c'est pour ça que l'analyse du comportement alimentaire, l'analyse nutritionnelle de ce patient, ça fait partie aujourd'hui des stratégies thérapeutiques qui complètent les stratégies traditionnelles d'antidépresseurs et de psychothérapie, qui est de plus en plus un des éléments du pilier des stratégies thérapeutiques, qui est extrêmement important, en plus des stratégies qu'on vous avait créées tout à l'heure, qui sont existées en ce moment avec Pierre Bossé qui nous a rendu dans le cadre de cette psychothérapie. Ça fait le premier, et ça fait bien finalement vraiment de la physiologie jusqu'à la pathologie mentale.
Je comprends qu'il y a une sorte de consensus autour du régime méditerranéen comme étant le régime optimal. Mais comment ça se fait qu'il reste une telle diversité dans les recommandations, les préconisations des nutritionnistes sur la consommation de viande ou non, les protéines de lait de vache ou non, le gluten ou non? Est-ce que c'est dû à une obscurité autour de comment marche le microbiote intestinal, ou est-ce que c'est dû au fait que chaque microbiote est hyper différent, et donc peut-être que le gluten pour l'un, ça rentre dans son régime optimal, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est pas du tout optimal.
Si je peux rajouter quelque chose, juste donc sur le, effectivement, en épidémiologie, ce qui a été montré, c'est que la consommation du diète de l'éthique était favorable à la santé de façon générale, mais il n'y a pas quelques dérives là. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir voir qu'il y a des diètes qui ne sont pas adaptées au monde. On ne peut pas penser que tout le monde va manger une diète méditerranéenne, mais qu'on va pouvoir produire en fait ce qu'il faut pour l'ensemble de la population. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a plusieurs diètes qui vont être considérées comme étant favorables pour la santé. Et on influence aussi la santé du cerveau. Mais ces diètes-là, en fait, ce qu'elles ont, c'est ça, c'est qu'elles sont diversifiées. C'est qu'effectivement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a réduit, société, on a réduit complètement, justement, la diversité alimentaire. Et on a introduit aussi des molécules, qui étaient des molécules, qu'on appelle des stationnaires, qui ne servent à rien. Ils sont là pour faire joli, ou pour conserver, ou je ne sais pas quoi, mais qu'en fait, qui ne servent à rien, qui ne sont pas des molécules, qui sont nutritionnelles, qui vont permettre de nourrir notre microbiote, notre corps, notre cerveau, de façon adéquate, c'est-à-dire donner les molécules dont on a besoin. Juste pour revenir sur le microbiote, ça sert à digérer le microbiote. Effectivement, tout le monde, je permets de nourrir ce microbiote, mais ce microbiote aussi permet de générer des molécules qui vont être adéquates pour notre organisme. Donc, finalement, cette diversité est extrêmement importante. Donc, les recommandations alimentaires aujourd'hui, c'est ça, c'est diversité. C'est vraiment saison, diversité, c'est pas. Et après, dans certains cas particuliers, il va être mentionné, il va y avoir des intolérances, on va plus pouvoir manger tel type de composé, on ne le supporte pas. On a une aversion alimentaire. Donc là, ça force à réorganiser l'alimentaire, effectivement, parfois retirer des aliments, des aliments spécifiques de l'alimentation, mais c'est pour des raisons médicales. Donc, ça doit être diagnostiqué correctement. Il ne peut pas faire comme ça au type, et je ne sais pas, pour quelle raison. Et surtout, on ne doit pas en tirer en tant qu'aliment sur l'alimentation. C'est une différence. C'est, on devait le dire, je regarde quelque chose, mais c'est vrai que c'est ça. Donc, si vous avez l'impression que les messages sont peu compréhensibles, C'est parce que, finalement, ce télescope a pas de croyance encore. C'est étonnant, parce qu'aujourd'hui, on dispose de données suffisamment importantes pour pas être dans les croyances. Les recommandations, elles sont faites et elles sont relativement simples à suivre. Et donc, on ne peut pas retirer d'aliments seul. En fait, la façon dont vous posez la question, c'est de mettre l'alimentation comme étant un médicament, et justement quelque chose qui va être uniquement sous cet angle-là. C'est-à-dire que j'ai un peu peur de ne pas manger correctement, et donc du coup, d'être à risque de développer des pathologies. En fait, c'est pas. Enfin, l'alimentation, c'est bien au-delà de ça. C'est le plaisir aussi, hein, le plaisir de cuisiner, le plaisir. Et c'est l'apprentissage. Donc je pense qu'en fait, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux étiquettes que vous mangez mal. Et que vous allez être à risque d'avoir une pathologie, donc d'avoir des biomarqueurs qui vont indiquer ça. Les recommandations aujourd'hui, elles existent. Effectivement, comment on y adhère? Comment est-ce qu'on l'adapte? J'espère, parce que voilà, on dit qu'il faut manger, je prends l'exemple des oméga 3 qui ont été mentionnés, sur lesquels je n'ai pas une logique très grave. Effectivement, la recommandation, c'est manger 3 fois par semaine du poisson gras. Ok, ça veut dire manger 2, ça revient 3 fois par semaine. Que personne ne fait. Personne n'aime pas le poisson de gras, c'est dégueulasse. Donc que ça sent mal. Ça, c'est typiquement le microbiote médical qui participe à ça, parce que certaines molécules aussi odorantes vont complètement dégoûter. Donc la question, c'est effectivement, vous n'allez pas être malade si vous ne mangez pas 3 fois par semaine des sardines. C'est pas juste savoir, ok. Bon, bah, du coup, je mange pas de sardines, donc je vais utiliser des huiles pour absorber chez mon médecin, des choses comme ça. Donc, c'est avoir cette éducation. Un médecin ne va pas vous dire ça, un nutritionniste éventuellement, ou un diète, effectivement, mais pourquoi les consulter en diète si vous êtes en bonne santé, ça. Sauf si vous avez une intolérance alimentaire, soit vous avez quelque chose, des problèmes digestifs, ce genre de choses. Donc, je pense qu'en fait, ce qu'il faut mettre par les coups, c'est de l'éducation. Alors, ça a été dit, c'est cuisiner, c'est faire ses courses, c'est savoir tout ça. Et ça, c'est plus par l'éducation, je pense, que par la médecine. Et après, la médecine, on intègre la notion d'alimentation dans le soin. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, ce qu'on appelle la prévention, finalement, c'est est-ce qu'on peut identifier des sujets à risque de, et là, intégrer l'alimentation et la nutrition dans le soin, avec des choses de très ciblées, par exemple sur le microbiote, quelles sont les personnes à risque? Enfin, Marion, on pourrait en parler plus souvent, si on parle de pathologie psychiatrique, on peut identifier effectivement des personnes à risque. On a intégré l'alimentation là-dessus. Sur la question de est-ce que l'alimentation est en facteur de développement de pathologie, diagnostiquer, c'est plus, il faut manger, voilà, ce qu'on a dit, diversifier, il faut essayer d'adhérer à ça, il faut éduquer. Pour moi, c'est développer.
Est-ce que tu vois, moi, sur le corps à bien, nutrition, santé mentale, est-ce que si on change l'alimentation, si on donne plus de probiotiques, par exemple, un enfant atteint d'autisme, est-ce qu'on peut diminuer son degré d'autisme, même sur sa vie adulte? Donc, est-ce que vos sujets de recherche ou est-ce que les projets de recherche sur le sujet sont dans le curatif ou plus dans le préventif sur l'alimentation de sa mère ou de ses ancêtres pour diminuer le 1 sur 50 enfants atteints d'autisme aux États-Unis ou 1 sur 150 en Europe?
Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que au stade actuel, on a cette idée que l'autisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un contexte unique et le même pour tous les patients, en fait. On va préciser, mais on s'intéresse à caractériser l'altération des microbiotes et le degré d'altération des microbiotes chez l'autiste en fonction de la présence ou non de symptômes intestinaux. Et les résultats qui ont été donnés sur la possibilité d'agir sur l'autisme, sur la sévérité, en fait, à travers la modulation des microbiotes intestinaux, les plus probants ont porté sur autisme plus symptômes intestinaux. Donc, en fait, on a tous les éléments de pensée qu'il y a une altération de la symbiose, de la relation humain-microbe, qui s'exprime par des symptômes, qui vont être, par exemple, les troubles de transit intestinal ou des douleurs, en fait, de la perception de sensibilité des serrages, qui probablement accompagne des altérations physiologiques au niveau intestinal et au niveau du microbiote. Et donc, dans ce contexte particulier, on a une strate de la population des autistes sur lesquelles on va pouvoir agir de façon efficace. C'est pas possible de généraliser aujourd'hui. On va pas avoir la solution secrète qui va permettre d'agir et donc notamment de corriger. Il y a eu des résultats, à mon sens, vraiment impressionnants, où le transfert de microbiote, donc et cette solution extrême, où on fait un reset de la symbiose, ont montré qu'on peut aller jusqu'à faire sortir des enfants de l'autisme, tel que c'est mesuré. Ça s'avère une série assez dense et tonique en fait, de l'intervention de transfert de microbiote sur une durée assez longue. Alors voilà, quelques années après, on a, en l'occurrence, l'étude portée sur une petite cohorte d'une vingtaine d'enfants, dont 80% étaient autistes sévères. Il y avait plus de 20% de l'autisme sévère deux ans après, et une partie est sortie du spectre. Donc du coup, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment impressionnant.
Et d'un intestin à l'autre, une personne à l'autre, en fonction de plusieurs personnes aussi, enfin, plein d'autres aussi. Parce que d'un intestin à l'autre, c'est même vêtement, on peut être efficace sur même probiotique ou l'alimentation reproduite, c'est aussi efficace, ou d'un microbiote à l'autre, ça change totalement.
En fait, les leviers sur lesquels on va vouloir agir, c'est ce que j'évoquais, c'est le microbiote potentiellement, c'est la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant, et ça, c'est les constantes. Donc effectivement, les bons leviers nutritionnels, par exemple, pour agir sur ces éléments-là, vont agir. Et c'est aussi des leviers qu'on a envie d'actionner à titre préventif.
J'aurais fait le même diagnostic pour l'anorexie, par exemple.
Alors, c'est à nous, au niveau microbiote fin, on ne voit pas les mêmes signatures dans l'anorexie mentale. Et par contre, on a des éléments de raison de penser que l'inflammation va être un facteur, la perméabilité intestinale potentiellement également. Et donc, on ne voit pas les mêmes microbes sur ou sous-représentés. Mais par contre, les paramètres physiologiques vont peut-être être effectivement assez proches. Il y aura d'autres éléments probablement à complémenter ou des facteurs confondants qui vont monter en ligne de compte parce que l'alimentation est tellement déséquilibrée que du coup...
L'hyperactivité
aussi. Il y a des éléments, la figure, je vais prendre les larmes, donc il y a d'autres éléments.
Mais
pour compléter
sur
le
métier, c'est aussi la façon dont les enfants se nourrissent aussi est très importante. Effectivement, il y a des stéréotypes alimentaires chez l'enfant, chez certains, en vrai tous, encore une fois, qui vont contribuer aussi complètement à modifier évidemment le microbiote. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir distinguer des enfants qui ont en fait une comorbidité, et donc voir ceux qui ont des problèmes intestinaux et essayer de trouver des stratégies pour spécifiques, aussi en fonction de la façon dont ils se nourrissent, parce que vous pouvez toujours parler de recommandations alimentaires, encore une fois, chez les autres, c'est assez compliqué d'agir dessus. Mais encore une fois, dans le phénotypage et dans la détermination précise des comportements alimentaires et des questions intestinales, et aussi des taux du spectre, c'est-à-dire que les spectres de soi, on permet d'alimenter. Mais en termes de stratégie aujourd'hui, là, il y a un essai clinique qui a été réalisé, qui a été publié récemment, encore une fois, pour interférer sur la production de molécules par le microbiote. Qui pour empêcher que cette molécule en fait soit implantée et puisse rentrer dans le cerveau et agir. Et là, sur un petit essai clinique, hein, c'est 36 enfants avec prolongation intestinale, il y a une amélioration des symptômes du spectre chez ces enfants.
Mais peut-être pour que vous repartiez pas d'ici en pensant qu'on guérit l'autisme, la pathologie alimentaire, c'est vraiment des changements de paradigme qui sont très récents. Ça fait, moi, j'étais étudiante en médecine, on m'a jamais appris qu'il y avait des symptômes gastro-intestinaux dans l'autisme. Donc, c'est des choses qui sont décrites de façon très récente, puisqu'en fait, au lieu de considérer que le maladie mentale, c'est des coups du comportement, on s'aperçoit qu'il y a tout un cortège de symptômes somatiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas du tout ni évalués ni pris en compte. Aujourd'hui, on sait que, selon les études, 30 à 90% des personnes avec autisme, que ce soit les enfants ou les adultes, ils ont des symptômes gastro-intestinaux. Donc la plupart des études qu'on fait, c'est d'essayer de comparer la flore intestinale, le profil inflammatoire, le tableau clinique de ces enfants ou de ces adultes avec ou sans symptômes gastro-intestinaux. Donc nous, on a montré qu'ils ont un profil clinique très différent, en fait, avec plus de troubles sommeil, avec plus de troubles d'exception sensorielle. Et c'est le début de ce démembrement, cette hétérogénéité, parce qu'un autisme, ça ne veut rien dire. C'est comme si on disait un retard mental ou une anémie. Il y en a énormément différentes et c'est tout ça l'enjeu des travaux pour qu'on mène au national pour essayer de dépasser cette différence mentale et d'être beaucoup plus précis. Donc l'étude dont on vous parle là, qui est en parenthèse, on voulait faire avec Joël depuis 10 ans, il y a un chevalet bien accepté pour tout le monde. Est-ce qu'il y a tellement de fausses représentations dans ce pays que l'idée que les fausses plantations africaines, ça pourrait être une stratégie thérapeutique, n'a jamais été acceptée. Je ne sais pas combien de fois on a déposé ce projet qui n'a jamais été financé. Donc il y a une seule étude au monde qui a été faite, qui est une étude américaine, qui nous raconte que c'est des enfants autistes avec un gros retard intellectuel sévère qui ont eu une transplantation. Et donc, ils ont vu, premièrement, en première publication, une amélioration des symptômes statistiques. Et alors, grande surprise, plusieurs années, c'était 2017, je crois, en deuxième publication, c'est 2019, ils ont vu une amélioration des troubles du comportement. À mon avis, ils ne cherchaient pas au départ. Donc, non seulement ça s'est poursuivi dans le temps, mais en plus, ça a eu un impact sur les troubles du comportement. Tout ça, c'est work of progress. Et on est toujours à la recherche de moyens pour arriver à mettre en place ces études. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait non plus la caractérisation de la flora intestinale. Mais on espère sortir pour envoyer, pas faire de l'envoyer pour bientôt, qui va nous permettre de caractériser les choses. Puis on espère pouvoir lancer une étude avec six bons plus sur la pour une microbiothérapie. Et dans certains cas, ça sera pas suffisant, peut-être faire cette transplantation. Mais c'est pas fait tout ça. Hein. C'est voir une progression.
C'est ça que la psychiatrie n'a pas encore intégré, en fait, tous ces liens dans la manière aujourd'hui de.
C'est pas que c'est pas intégré, c'est qu'il faut de la recherche encore pour admettre les signes dans notre manière de diagnostiquer, de prescrire. On est en cours, c'est les changements de paradigme et de représentation. C'est une vraie révolution.
Oui, on est dans un virage majeur. C'est que, voilà, il faut prendre conscience que l'humain est microbien pour commencer à essayer de construire l'évidence de l'importance. Et pour l'instant, notamment dans le domaine de la neurologie, donc c'est vrai pour le neurodégénératif aussi, c'est compliqué de faire commencer la recherche, en fait, hein, de base, pour pouvoir commencer à construire l'évidence. Donc voilà, évidemment, c'est l'exception.
Puis, si je peux rajouter quelque chose aussi, il y a l'interaction avec les médicaments, puisque le microbiote va être aussi très, très important dans la façon dont les médicaments, certains médicaments, vont être utilisés. Donc, ça ajoute aussi une composante importante dans la réponse au traitement. Donc, ce statut, finalement, va être aussi extrêmement important pour ça. Donc, c'est une révolution, c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau. On est à la longueur de ce type de
fauchis. Vous avez quand même un certain nombre de données qui sont encore intégrées. Par exemple, moi, personnellement, mon patient, ça n'est jamais arrivé qu'un médecin me demande, me pose une question sur mon régime. Et est-ce que si un médecin faisait ça, et que je lui donnais les réponses, il pourrait me donner quelques éléments, quelques indications à suivre, où il n'y a même pas, ou même ces données-là, on les a pas encore.
Mais les domaines de la médecine, hein, où la recommandation hygiéno-diététique, c'est quand même la première action. Donc, dans le diabète, par exemple, c'est quand même, et dans les maladies hépatiques aussi, je pense que dans la stéatose, c'est un petit peu rentré dans la médecine. Mais, c'est dans le métabolisme en général. C'est le cardiométabolisme. Le cardiométabolisme, en fait. Bon, voilà, mais pas partout. Et je pense que l'aspect neuro est le dernier de la liste. Commencer à peine, mais c'est lié au fait que, comme vous le disiez, Marion, le médecin qu'on forme aujourd'hui en France, on ne lui parle pas de microbiote au sens symbiose. Hein. Il a 2 heures quand tout va bien, 6 heures quand il y a vraiment un médecin qui est à fond dans le sujet et qui a envie de passer le message. Donc voilà.
C'est davantage un problème de données, c'est un problème de culture, ou c'est un problème de formation, mais après un problème de données, il y a ces deux choses,
deux choses en même temps, mais c'est aussi la formation, effectivement. Et on a des situations où le patient est mieux formé sur le microbiote intestinal que son praticien en face de lui, son généraliste ou son spécialiste. Hein.
Très souvent, ça fait.
Alors, il y a un point qu'on a évoqué et sur lequel on n'a pas répondu, c'était cette question sur le diagnostic. Quoi. Est-ce que c'est pertinent de penser la photographie de mon microbiote va servir à quelque chose?
Oui.
Et donc, je suis obligé d'en parler avec beaucoup, beaucoup de précautions quand même. Parce qu'aujourd'hui, on voit naître des petites sociétés qui proposent effectivement de faire la photographie du microbiote. J'ai un collègue médecin qui dit le selfie de l'intérieur. Alors, moi, je comprends l'engouement. Je comprends que, voilà, on a pu à un moment donné faire séquencer notre génome humain. Et donc, c'était intéressant pour plein de gens. Et je comprends. Là, on peut faire le microbiote intestinal avec des outils plus ou moins bons. Et je comprends aussi l'engouement. Mais aujourd'hui, le médecin ne peut rien en faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une chaîne de valeur avec des standards tout du long. Ça veut dire que si on fait appel à trois sociétés différentes pour faire la photographie de son microbiote, on va avoir trois résultats différents. Donc, si on est sur un schéma où on va toujours demander la photographie au même labo photo, on va avoir quelque chose qu'on va pouvoir comparer au fil du temps, donc on va pouvoir monitorer éventuellement des améliorations, pour autant qu'on sache lire, il en revient. Mais la plupart du temps, quand même, cette absence de standard est très, très pénalisante. Et donc, il faut qu'on développe le pipeline nécessaire. Une société avec laquelle je travaille se donne vraiment ça comme objectif, pour qu'enfin, on soit en situation de permettre à la médecine de valider la pertinence de l'information et son utilité clinique. Pour l'instant, on n'est pas dans cette situation, en France et partout. Et donc, c'est un petit peu fragile quoi, comme situation par rapport à ça. Moi, je ne peux pas dire, allez à fond, faites analyser votre microbiote et vous verrez. Non, vous verrez des belles images avec une aide dans la zone verte, une zone orange ou dans la zone rouge. Personne ne peut rien en faire. J'ai des collègues gastro-entérologues qui voient des patients arriver avec ces beaux rapports de 40-50 pages et qui mettent gentiment à la poubelle en expliquant pourquoi, en fait. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Alors, je suis microbiologiste, hein, donc j'aurais envie que valoriser ça.
Et du coup, j'ai deux questions. La première, c'est vous évoquez ce pipeline et cette ossature nécessaire à l'utilisation de ces données, de cette photographie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après vous? Et la deuxième question, c'était la question initiale, c'est justement, quel est vous, en tant que chercheur ou spécialiste du sujet, quelle est aujourd'hui la limite que vous avez dans la recherche? De quoi vous auriez besoin pour faire avancer cette recherche potentiellement plus rapidement, parce qu'on, de manière très régulière, je sais que la recherche est encore à sa genèse, et que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et extrêmement complexe. Et qu'est-ce qui pourrait contribuer, qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qui pourrait accélérer cette recherche?
Je vais répondre sur le premier volet de la question. En fait, j'ai déjà en partie répondu, quoi, mais je pense que utiliser la photographie du microbiote pour la nutrition préventive ou la médecine, pour moi, ça doit passer par un processus standardisé qui fait que si on faisait l'analyse en France, aux US ou en Australie, on aurait la même réponse. Et donc, la façon dont ça peut se traduire, c'est la logique. Si c'est vraiment dans la médecine, c'est que le praticien en prescrit. Alors, il prescrit des analyses de biologie tous les jours, en fait. Hein. En plus, il prescrit le microbiote et il a les deux sur son dashboard pour décider, en fait. Et donc ça ne peut passer que par le laboratoire de biologie médicale. Et donc, il faut qu'il y ait la co-construction du pipeline avec les laboratoires de biologie médicale pour probablement l'aide aux laboratoires sur la partie data science, en fait, analyse de données, parce que aujourd'hui, ils ont la compétence, notamment avec la Covid, pour faire du séquençage. Ça, ils savent faire, ils savent produire la donnée. Par contre, l'exploiter est plus compliqué, donc il faut qu'il y ait un peu un support au niveau de ça. Et puis ensuite, que ça revienne au médecin avec le classique, en fait. Ça peut être une ligne. Pour le microbiote intestinal aussi, même si on est chacun 300 espèces bactériennes différentes en dominance, et on partage pas tant que ça, en fait, entre individus, en termes de graphie, en termes de composition. Même avec ça, il faut qu'il y ait cette photographie pertinente, quoi, basée sur du solide. Ça pourrait amener à une situation où dans 3 à 5 ans, on a ça. Et on commence à construire ce que j'évoquais, l'évidence de l'avantage, du bénéfice clinique, en fait, à avoir cette information en plus.
Et je veux juste rebondir sur ce que vous nous dites. On sait que la formulaire, quand vous évoquez la data science, du coup, c'est ces modèles structurants qui ne sont pas interférés. Ou est-ce qu'on sait que en amont dans la chaîne de valeur, dans la photographie de la donnée, plus de l'âge, est encore à améliorer? Ou est-ce que c'est vraiment la formulaire, c'est vraiment la data science ou le machine learning, le plus probablement, qui pourrait être capable justement de s'auto-nourrir progressivement
les modèles? Sur le monde aujourd'hui, dites-nous quelles sont les caractéristiques du microbiote normal. On a la question tous les 4 matins, c'est compliqué. Et c'est compliqué, et les meilleurs indices qu'on a aujourd'hui, c'est plus des indices de métabolites, en fait, de petites molécules qui sont produites en grande partie par les microbes intestinaux et qui pourraient être utile, quoi. Plus que la photographie de la structure ou de la composition du microbe ancestral, qui a traduit probablement le fait que les fonctions des microbes sont plus importantes que la composition du microbe elle-même. Mais voilà, les spécialistes du domaine, ils savent lire une photographie du microbiote et dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, on est sur une richesse du microbiote qui est vraiment complètement déprimée, on est sur l'absence de certains groupes microbiens qui vont produire des molécules qui sont bénéfiques pour notre paroi intestinale ou notre physiologie, des choses comme ça. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas ça le facteur limitant. Les technologies sont là, les standards même. Pour autant qu'on aille sur certaines technologies sont à disposition. Effectivement, la partie comment je traduis la photographie en recommandation, elle doit être construite. Mais elle ne peut être construite, donc on ne peut commencer à travailler ça pour la vraie vie que quand on a effectivement le pipeline standardisé en place. Il n'est pas encore tout à fait là. On a un mot sur ce terme-là pour l'instant.
Je sais qu'il y a des questions, mais pour vous rendre là-dessus, on a l'impression de vous que, à la fois, donc, par exemple, vous ne rendez pas spécialement et du médecin, très peu pour interpréter les épisodes, aussi les institutions, la Société nationale d'histoire biologique, qui ne vous pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous faites partie de la solution, vous avez la solution. La solution, ce serait que ces startups qui proposent les diagnostics et vous, les chercheurs, ben, co-construisez la solution et dialoguez. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans le sens de méfiance entre, d'une part, les institutions et les startups, et j'ai l'impression que ni l'une ni l'autre, vous s'approchez, mais après, vous êtes une preuve contraire parce que vous avez la startup, et j'aime, je vous dis.
Ouais, c'est pas une question de vous aider, en fait. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est compliqué. On travaille tous les jours avec des partenaires industriels, honnêtement, hein, de la nutrition, de la pharma et du diagnostic aussi. Mais c'est compliqué de travailler avec une société qui va, par exemple, utiliser la donnée microbiote pour dire vous êtes au top sur les performances sexuelles, vous êtes au top sur des choses qui sont soit aux performances sportives ou autres. Ben non, non, le microbiote ne permet pas de dire ça aujourd'hui. Donc comment vous nous voyez, nous, en tant qu'institution, travailler avec une société qui exploite et surinterprète la donnée? C'est pas possible. On peut pas prendre ce risque-là, en fait. Et donc ça, ça fait partie vraiment du problème, quoi. Et donc, ben pour moi, le problème est bien moindre. Si effectivement on essaie de construire un pipeline qui, dans la médecine, va permettre aux médecins de prescrire, passer par un laboratoire de biologie médicale et aboutir à une exploitation de données. Donc voilà, c'est plus ça pour moi, hein, la difficulté. J'aimerais bien, mais je peux pas me permettre de travailler avec une structure industrielle qui surexploite la donnée et qui, pour moi, quelque part, pousse le bouchon tellement loin que je suis pas d'accord éthiquement avec cette démarche-là. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça la barrière aujourd'hui. Et on a beaucoup de sollicitations, honnêtement. Et à chaque fois, on regarde ça avec un regard vigilant. Et souvent, à un moment donné, on dit non, c'est impossible.
Il y a des jours, enfin, dans cette question, là, c'est les jours, pour faire le rond avec ce qui est la deuxième question, qui est comment, justement, potentiellement, des acteurs privés, externes, en tout cas, exogènes, hein, concentration du savoir purement recherche et ceci, comment vous pouvez aider à les accompagner par des structures externes, ou comment ou quel des facteurs, si on nous en a identifié, on a peut-être du financement simplement, mais qui pourrait faire assez de recherche, en tout cas y contribuer.
Bah, le financement fait partie, c'est clair.
Et le financement, complètement.
Là, moi, sur cette partie-là, pour moi, c'est vraiment faire la démonstration de ce cercle vertueux que j'évoque, en fait. Quoi. C'est le médecin et son patient sont conduits à la prescription de la biologie classique et du microbiote, et le retour est sur le dashboard du médecin et de l'aide, en fait. Et donc, c'est comment on met en place et comment on démontre qu'il y a un bénéfice clinique et un bénéfice pour le patient, en fait, quoi. Et c'est, je dis simplement, mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que le premier tour du cercle, c'est OK, ça arrive sur l'ordinateur du médecin et il voit, parce qu'on l'a aidé, en fait, quand il peut lire, que, bah, les choses sont plutôt en zone verte ou plutôt en zone rouge, ou c'est encore dans la zone grise et on va pas trop bien savoir, donc on va faire une prescription et puis on va refaire un cercle pour monitorer et voir si les choses s'améliorent. Donc ça, On peut le faire, un petit peu d'énergie et d'investissement financier pour faire. Mais je pense que si on fait ça, après, ce sera beaucoup plus facile pour les structures industrielles à l'extérieur de pas se laisser aller à surinterpréter, parce que on aura choisi les domaines de la médecine où on a envie de tester la valeur ajoutée et on aura documenté les bénéfices cliniques. Pas si sur l'évidence. Donc ça suppose de l'expérimentation humaine dans des contextes de cohortes de patients pour arriver à démontrer que si on ne prend pas en compte ou si on prend en compte, ça fait une différence.
Après, sur la méthodologie, nous, par exemple, on a créé ce qu'on appelle une cellule de transfert qui permet de monter des projets partenariaux avec des partenaires industriels et donc des partenaires académiques, répondre à des appels d'offres pour construire en fait l'innovation dans le domaine d'une question cerveau, et vraiment se servir d'une question scientifique qui va générer des connaissances, qui va permettre ensuite, justement, après un transfert vers l'industrie, vers la clinique, vers le domaine. Et donc, il y a une possibilité de répondre à des appels d'offres aussi communs, en partenariat, et dans cette co-construction. Donc, c'est quelque chose d'assez important et intéressant à faire.
Et aussi, ce qu'on fait. Mais par rapport à ce que j'ai fait, les salariés sont également financés par les privés, les industriels et l'État. Et je pense que ça précise, je pense que c'est ces synergies-là qui sont assez longues. Mais en même temps, vous évoquez parfois que les gens sont dehors, ce que je me suis fait en France, vous évoquez la surinterprétation de données de ces jeux structures qui vont faire un peu de. Qui vont survendre, etc. Et en même temps, dans ce cadre des industriels-là, il y a aussi justement une forme d'utilisation, d'exploitation de cette donnée. Et pas forcément dans des fonds comme purement recherche académique, ça reste à des fonds marketing et business, in fine. Et ce que c'est la station, c'est justement des problèmes de cette construction des industriels, la recherche fondamentale. Et son. Sur l'exploitation, une fois sur l'interprétation des groupes qui vont récolter, qui vont recevoir en tant que chercheur.
Pour moi, dans mes projets co-construits, justement, on arrive à ça, et puis c'est les écueils de juste avoir une question adressée par effectivement un partenaire industriel qui veut valoriser quelque chose que lui veut mettre en place. C'est la co-construction qui permet l'innovation. Ça, c'est. Et on a besoin de cette co-construction, parce que, effectivement, dans le domaine de la recherche, nous, on peut adresser certaines choses. On a aussi des infrastructures qui nous permettent d'aller poser certaines questions, et inversement, c'est-à-dire les industriels vont avoir d'autres pipelines pour aller adresser les questions. Donc, c'est cette co-construction qui est justement extrêmement intéressante.
Et ce modèle existe depuis très longtemps. Ce modèle existe depuis très longtemps. Il y a la Bourgogne, depuis des décennies, entre les entreprises privées et dans tous les domaines. C'est la bonne liste. Aussi, ce ne sont pas là à tout prix pour exploiter la recherche fondamentale. Ils sont là pour la financer parce qu'ils sont conscients que c'est un vrai pipeline d'innovation. Et ça existe vraiment. C'est un modèle surutilisé depuis des décennies.
Marine, tu avais
une question sur les compléments alimentaires. On voit qu'il y a un marché florissant des compléments alimentaires. Il y a une prise de conscience, clairement, avec des livres qui ont eu un grand succès sur l'intestin, deuxième cerveau, etc. Donc, les gens ont conscience que le microbiote, c'est important. D'où, je pense, effectivement, le marché florissant des compléments alimentaires, des gens qui prennent des compléments pour enrichir leur microbiote. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que finalement, comme chacun a un microbiote différent, le fait qu'il y ait des compléments alimentaires assez standardisés, est-ce que ça a un effet, est-ce que c'est utile? Finalement, il faudrait qu'on d'abord analyse son microbiote pour prendre des compléments alimentaires adaptés, ou est-ce que c'est finalement très important d'enrichir son microbiote avec des compléments si on a 25 portions de fruits et légumes différents dans la semaine?
Recommander 25 fruits et légumes par semaine, quoi. Plutôt que des compléments alimentaires. Sur le volet complément alimentaire, c'est raison. Le paradigme initial, c'était on identifie une fonction qui manque, en fait, une défaillance, et on va pallier ce manque par l'apport d'un microbe, par exemple, qui fait la fonction. Honnêtement, on a fait un pas en arrière, on s'est dit non, c'est pas juste une altération du microbiote qui va faire perdre une fonction donnée, c'est globalement le système humain-microbien qui s'altère et qui peut s'altérer, et donc c'est ça qu'il faut gérer. Et c'est pour ça que quand on travaille avec Pierre-Yves et Marion, on a utilisé des leviers qui permettent d'agir à plein d'endroits différents. Aujourd'hui, si on veut faire une recommandation pour agir sur le microbiote, la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant, il faut recommander une liste de 5 ou 6 compléments alimentaires parce qu'ils n'ont pas été conçus avec ça en tête du tout. Donc il y a un virage là aussi, il y a un chemin à parcourir pour que effectivement le complément alimentaire il soit conçu pour l'humain microbien, pas juste pour une fonction qui manque. Et nettement, le microbiote intestinal, quand tout va bien, il n'est pas super permissif en fait. Hein. Une de ses fonctions principales, c'est la barrière contre les microbes de l'environnement. Heureusement pour nous, parce qu'on rencontre pas que des microbes sympas. Quand on mange une bouchée de fromage, c'est 100 milliards de microbes avec des bactéries, des levures, des champignons et pas que des amibes. Mais aucun de cela ne s'installe parce que notre microbiote a cette fonction de barrière. Donc du coup, voilà, c'est plurifonctionnel. Et ce sur quoi on veut agir, c'est l'humain microbien. C'est une vision un peu globale, holistique. Et donc, pour l'instant, les compléments alimentaires qui existent, ils sont pas conçus pour ça. Quelques-uns sont un petit peu diversifiés quand même, ou pas trop loin de ce qu'on nous réfère, mais pas en ligne avec ce qu'on a en tête, en tout cas quand on pense voilà, on va gérer ces différents leviers de la symbiose.
C'est exactement ça, c'est pourquoi faire. En fait, effectivement, si vous faites un complément alimentaire en magnésium pour le faire, c'est parce que voilà. Vous avez une déficience éventuelle là-dedans, ça sera très court. En général, les compléments alimentaires dans la vie de quelqu'un, c'est 3 mois par an, maximum. Quelque chose d'assez, finalement, un peu long. À l'initiative de quoi? Pourquoi prendre un complément alimentaire? Est-ce que c'est lequel? Parce que pour vous regarder la diversité de ce qu'il y a en termes de compléments alimentaires, en vrai, parce que je parle d'oméga 3, qui va avoir un effet sur la barre, qui va avoir un effet sur le cerveau, aussi très important. Si vous regardez la diversité de compléments alimentaires d'oméga 3, je pense que vous y retrouverez pas. C'est extrêmement compliqué de comprendre lesquels, les doses, à quel moment, et puis pourquoi faire. Donc, effectivement, c'est un marché florissant, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir sortir des compléments alimentaires sur le marché qui sont issus de recherches partenariales, justement, avec une innovation, quelque chose qui est vraiment conçu pour ça. Et derrière, la recommandation pour l'utilisation de ce complément sera justement faite. Et du coup, l'utilisation du complément sera adéquate. Parce que sinon, bon.
Merci. Effectivement, ça sera le mot de la fin de Marine. J'ai entendu les limites sur celles de la diversité et l'équipe ECA et de New Fun avait anticipé ce message avec des belles préparations. Certaines un peu à l'imaginaire, d'autres prêtes avec des petits chemins de Emma et
Brett. Bravo Emma, c'est de drôle.
C'est bon. Merci pour vos questions. C'était super
échange. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais vous dire.